les jardinières.
Après une dernière semaine à marquer sa différence en passant du printemps à l'hiver, il est temps de dire au revoir au mois de février. Est-ce que le mois de mars sera plus stable et nous permettra de jardiner, à faire, à suivre. Avant de sortir pelle et râteau, les jardinières répondent à vos questions jardinage. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour à nos auditeurs. Ce matin, c'est Jean-Pierre Ribaud, notre spécialiste, qui prendra la parole pour répondre à toutes vos questions. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour répondre aux questions de nos auditeurs. Des questions que vous pouvez déjà nous poser par téléphone. Le numéro, vous le connaissez, 0901 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Vous avez l'option SMS également. Vous tapez jardin, un espace et votre question, ou via votre question que vous nous envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site internet avec la possibilité de joindre une photo.
Et via le formulaire ou par SMS, soyez généreux sur les détails, ça aidera notre jardinier à vous répondre.
7h, 8h, les jardinières.
Le mois de février nous en a fait voir de toutes les couleurs. Demain, c'est mars qui commence et dans 3 semaines, c'est déjà le printemps. Les mains des jardiniers amateurs fourmillent et l'envie de sortir la pelle et la bêche se fait sentir. Alors Jean-Pierre, est-ce le bon moment pour débuter les travaux au jardin ?
Oui, alors le bon moment, je ne suis pas très sûr, on est quand même encore un petit peu précoce sur la période. Je dirais que dans nos aménagements, si des mesures peuvent être prises ou voudraient être prises, ce qu'on peut faire, étant donné l'avancée des éléments, il y a quelques protections qui pourraient être mises sur des arbustes à fleurs, des fruitiers à fleurs, des espaliers, des choses comme ça. Pour le reste, on est encore un peu tôt. Il y a encore un peu d'entretien qu'on peut réaliser, bien sûr, les derniers, parce qu'il reste des éléments qui n'ont pas été faits dans ces aménagements. Mars arrive, les fleurs arrivent, il faudra faire attention de ne pas trop écraser toutes ces bulles, tous ces éléments qui se mettent à se développer. Et puis alors après, bien sûr qu'on n'aura pas assez de temps pour réaliser tous nos souhaits dans ces aménagements, c'est évident.
Je me demandais là, la neige est tombée, enfin le week-end passé, dimanche, c'était le printemps, on était dehors en pull, bam, la neige nous arrive sur le coin du jardin. Est-ce que les plantes souffrent ou ont souffert ?
Non, alors évidemment pas, que cette neige a posé des dégâts sur ces végétaux. Ça a été même plutôt protecteur parce que la neige, elle a un petit peu protégé les éléments fruitiers qui étaient en train de gonfler, ou les fleurs, ou les choses comme ça. Non, cette neige a été plutôt bénéfique et rappelez qu'on était encore au mois de février. Par contre, ce qui va être beaucoup plus dangereux, ce sera le mois de mars, si on a des gelées printanières de l'ordre de moins 3, moins 4, là, on pourrait avoir des dégâts conséquents sur les fleurs, les boutons, les choses qui sont déjà développées. Malheureusement, on a vraiment, je pense, 15 jours d'avance sur les autres années. Et puis, le retour du froid n'est pas impossible sur ce mois de mars, on le sait. Donc, non, la neige a été bénéfique, surtout pour ces enfants. Faudra s'attendre à du froid du retour et puis un peu de dégâts, là, je pense.
7h, 8h, les jardinières.
7h16 chez les jardinières, vous posez vos questions par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 comme l'a fait Pierre. Alors Jean-Pierre, c'est une question pour vous. Pour l'hivernage, j'ai recouvert de fumier de cheval un carré de fleurs. Dois-je attendre la nouvelle floraison pour éliminer ce restant d'engrais ? Jean-Pierre, on écoute votre réponse.
Oui, eh bien bonjour Pierre. En fait, c'est difficile à répondre à la question étant donné qu'on ne sait pas de 1 les fleurs que vous avez voulu hiberner sous cette masse humifère de fumier. Et puis on ne sait pas non plus l'épaisseur de fumier que vous avez mis. Alors, par supposition, si c'est des bulbes ou des éléments qui étaient dormants dans le terrain et puis qui doivent se développer maintenant, alors à l'évidence, il faudrait un petit peu ajourer l'épaisseur de fumier que vous aurez mis. Vous pouvez enlever en tout cas tout ce qui est des éléments pailleux parce que celui-là, il va se décomposer, mais il va mettre beaucoup plus de temps que le crottin, donc il est plus intéressant de garder que le crottin. Le crottin va également pouvoir se défaire nettement mieux et puis s'incorporer au sol. Après, si vous avez des plantes vivaces avec rosettes, eh bien là, il faudrait au moins dégager les rosettes pour les mettre en luminosité et puis les dégager qu'on les voie. Et puis après, si c'est des annuels, non, vous pouvez simplement faire un petit travail du sol avec le crottin, évidemment, enlever le gros de la masse pailleuse, parce que celle-là, il faudra plus de temps pour amener les éléments nutritifs à votre sol. Alors, gardez que le crottin, vous le défaites, vous donnez un petit coup de larron, et puis tout va démarrer gentiment.
Ah, déjà, un petit coup de larron.
Ah, pardon. De crochet, de râteau, de égaliser la surface en défaisant les mottes et puis en faisant quelque chose qui a un aspect visuel cool.
Là, on a parlé de l'hivernage et d'engrais. Est-ce que, par exemple, si on a mis des branches de sapin pour protéger des bacs ou des plantes, c'est le moment de les enlever? C'est encore trop tôt?
Bon, alors à l'évidence, maintenant, ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir supprimer, au même titre que ce qui est des feutres, des jutes, des éléments qu'on emballe, soit les graminées, soit les plantes comme les oliviers ou ces plantes en pot. Ça, on peut dégager maintenant, sans souci. Au même titre que tout ce qui est de graminées qu'on a laissé à l'automne branchues, ramifiées, parce que comme l'herbe de la pampa, si on la taille trop court durant l'automne, il y a des risques de gel durant l'hiver. Alors, on les laisse en plein état durant l'hiver, et puis au printemps on peut les tailler. Alors c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment enlever tous ces vieux éléments, ces choses-là, et puis faire quelque chose de cool, de chouette, quoi.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour votre réponse. On espère que Pierre aura eu sa réponse et qu'il n'hésite pas à continuer à nous écrire par SMS en tapant jardin un espace suivi d'une nouvelle question au 939 ou par le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions ou jardinière, avec là la possibilité de joindre une image de votre plante, ou sinon il reste le téléphone pour être en direct avec nous, 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute.
7h, 8h, les jardinières.
7h23 chez les jardinières, l'heure de parler arrosage. J'entreprends de créer un potager carré pour le printemps et je cherche des astuces pour l'arrosage efficace sans mise en place de quelque chose de trop encombrant. J'ai pensé à utiliser un arrosage électrique ou non, qui me permettrait d'être autonome dans mon jardin, d'arroser et de traiter en même temps. Qu'en pensez-vous, Jean-Pierre ?
Oui, alors Mylène, en fait, pour ce qui est de l'arrosage du potager, ce qui peut être fait, c'est d'installer, on trouve maintenant dans le commerce des petits ordinateurs qu'on branche sur le robinet. Il y a une petite pile, et puis là, vous programmez votre ordinateur, et puis vous lui donnez la donne de l'arrosage que vous souhaitez. Mais après, à l'évidence, on ne va pas mettre ce système d'arrosage en route maintenant, on est beaucoup trop précoce dans la saison. Je dirais que c'est le système qu'on mettra en place plutôt pour le mois de mai, juin, juillet, éventuellement août, quand on a des périodes caniculaires très sèches et par manque d'arrosage naturel. Parce qu'au printemps, eh bien évidemment, quand vous aurez réalisé vos carrés de potager, eh bien un arrosage ponctuel avec un arrosoir et puis une bonne dose d'humidité par plante que vous aurez repiquée, ou un arrosage superficiel d'un semis que vous aurez réalisé va suffire, parce qu'on aura assez d'humidité printanière pour le développement futur de vos légumes ou de vos plantes ou de vos fleurs ou de ces éléments-là. Par contre, après, bien sûr, si on a des canicules, eh bien, ces systèmes automatiques sont vraiment intéressants. Il va se mettre en route une heure le matin, une heure le soir. Vous aurez de l'humidité constante pour la nuit et puis le potager va se porter à merveille. Après, quant au traitement, alors évidemment, on ne peut pas lier une intervention de traitement avec un arrosage, parce que, évidemment, si l'on traite avec un phyto qui est humide et puis qu'on arrose derrière, on va lessiver ce produit et puis ce sera pas du tout efficace. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est évidemment lier une mise en place d'engrais avec un arrosage, mais en tout cas pas un traitement.
J'ai peut-être une question, Jean-Pierre. On parle d'arrosage électrique. Est-ce que d'automatiser son arrosage est conseillé, ou est-ce que l'arrosage à la main chaque soir quand on le fait nous-mêmes, ça reste encore une très bonne solution?
Alors ça dépend un peu du carré de potager que vous avez à entretenir, et puis ça dépend de votre présence chez vous pour arriver à réaliser cet arrosage. Si vous partez 15 jours en vacances et puis que vous avez une super levée de salade ou de plantons que vous avez mis en place, peut-être là l'arrosage automatique sera hyper intéressant, parce que vous êtes tranquille que vous aurez l'humidité nécessaire à ça. Après, si vous avez un petit carré et puis que durant l'été vous êtes présent, je pense qu'avec un ou deux arrosoirs, vous les faire... Nettement plus d'économie d'eau et puis une bonne intervention. Je pense que ça pourrait suffire.
Et puis on peut voir comment se portent les plantes quand on va dans notre jardin avec l'arrosoir.
Alors à l'évidence, et puis on peut surtout voir l'arrivée des mauvaises herbes. Alors quand il y a de la mauvaise herbe qui arrive, c'est que l'humidité elle a été correcte, et puis là il y a une petite lutte mécanique à réaliser. C'est vrai que des fois le retour des vacances avec un arrosage automatique, c'est un peu la mauvaise surprise.
Les jardinières.
Les jardinières sont de retour, c'est votre émission jardinage du samedi matin. C'est vous qui donnez le ton et qui menez la pelle et la bêche. Jusqu'à 8h, c'est Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysage à Queuves qui répond à vos questions.
Question que vous pouvez nous poser en direct par téléphone avec nous, comme ça on entend également votre jolie voix du samedi matin. Ça se passe au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous nous envoyez tout ça au 939 ou avec le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Sans transition, on passe à la question de Colette de Porrentruy. Elle nous dit « Bonjour, j'ai deux questions. J'ai deux groseilliers qui ont pris de l'ampleur au fil des années. Faut-il tailler les branches? Lesquelles? Faut-il aussi mettre du fumier au pied des groseilliers et des framboisiers ?» Alors Jean-Pierre, je propose qu'on prenne dans l'ordre les questions. Donc elle demande déjà « Est-ce qu'il faut tailler les branches de ces groseilliers? Et si oui, lesquelles ?»
Eh bien, bonjour Colette. Oui, à l'évidence, une taille d'entretien sur un groseillier doit être effectuée. Alors bien sûr, vous avez votre végétal chez vous que l'on ne voit pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taille devrait se réaliser tous les 3 ans, 4 ans. Et puis à chaque fois qu'on intervient sur un groseillier, comme une bonne partie de tout ce qui est d'arbustes, petits fruits et même arbustes à fleurs dans nos propriétés, le fait de couper quelques branches les plus vieilles dans le pied de cet arbuste va provoquer un rajeunissement naturel des éléments. On sait que sur les groseilliers, c'est les branches qui datent de 3 à 4 ans qui produisent le plus et avec des grandeurs acceptables de fruits. Donc il faudrait, pour la taille de l'entretien de votre groseillier, enlever les vieilles branches, vraiment les enlever jusqu'à la base, mais pas laisser des chicots, puis pas tailler à mi-hauteur, parce que le problème, quand on fait des tailles à mi-hauteur sur un végétal, eh bien la coupe du sécateur va provoquer la repousse de branches, mais à la hauteur de cette coupe. Donc si vous coupez votre branche à 1 mètre, eh bien vous aurez un redémarrage de branches à cette hauteur-là, et puis vous aurez un arbuste qui va venir à 1,50 m, 2 mètres, ce qui n'est pas du tout le but. Donc on les sectionne à la base, à la hauteur du collet du pied, on enlève les vieilles branches, on enlève les petites branches qui ne vont rien donner parce qu'elles se vont trouver nanifiées dans l'obscurité du feuillage du végétal. Et puis ainsi, tous les 3-4 ans, si vous faites cette taille d'entretien, ça va vous garantir une mise à fruits facile, des fruits de qualité avec une coloration acceptable et du sucre, parce qu'évidemment, si vous avez trop de feuillage et puis pas assez de luminosité à l'intérieur de vos petits fruits, eh bien vous n'aurez pas le sucre nécessaire et la douceur des petits fruits.
Est-ce que c'est la bonne période encore maintenant pour tailler ce groseillier ?
Alors oui, à l'évidence, je dirais que ce qui va nous interrompre dans la taille sur ces éléments-là, sur ces arbustes, c'est le grossissement des boutons. Le risque, c'est que quand on coupe une branche et puis qu'on la sort de cet arbuste, si c'est vraiment très dense, vu que les boutons, ils auront été gonflés par l'arrivée du printemps, eh bien, ils se cassent très facilement. Puis là, on perd vraiment une qualité de fleurs, de quantité de fleurs. C'est vraiment ce qui va nous limiter en intervention. Non, alors de toute façon, maintenant, elle peut encore vraiment intervenir sans souci.
Et il y avait encore la question de mettre du fumier au pied des groseilliers et des framboisiers.
Alors oui, bien sûr, le fumier reste un élément intéressant au niveau de l'apport nutritif sur ces cultures. Il y a plusieurs avantages. C'est que le fumier, donc, c'est un élément organique qui n'est pas chimique, qui va se décomposer dans le temps, qui va vous faire aussi une couverture du sol, ce qui va aussi bloquer l'arrivée des plantes annuelles, bisannuelles, donc les plantes indésirables qu'on n'aurait pas souhaité dans ces carrés. Et puis ça va aussi provoquer la retenue d'humidité au niveau du sol. Si vous avez un sol qui est dégarni et puis avec une terre mise à nu, automatiquement le soleil va réchauffer ce sol et puis va assécher ce sol. Tandis qu'un paillis, alors de fumier, de compost ou de paille est hyper favorable. Surtout ne jamais mettre un mulchis de copeaux de bois, d'écorce de bois, parce que le bois, on le sait, quand il se décompose, il va se mettre à produire des mycéliums pour transformer son bois en matière humus. Et puis ce champignon peut s'attaquer au collet des petits fruits, des framboisiers et autres. Donc voilà, mais oui, vraiment du fumier, elle peut y aller, elle peut le mettre. On évitera peut-être de mettre du fumier qui est chaud en température, parce que ça peut causer des dégâts sur les collets de plantes, et puis on évitera peut-être d'en mettre une trop forte épaisseur, parce que cela n'en vaut quand même pas la chandelle.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on espère que Colette est satisfaite de la réponse. Vous voyez, quand les questions sont les plus complètes, les réponses le sont également. Continuez à nous poser vos questions par téléphone 0 900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez faire également comme Colette et passer via notre site internet. Le formulaire est disponible avec la possibilité de joindre une photo, ou sinon il vous reste l'option SMS. Vous tapez jardin un espace, vous écrivez votre question et vous nous l'envoyez au 930. Et je vous propose, Mylène, d'enchaîner avec une question de Joe qui vit à Beuvresse. Il aimerait avoir beaucoup de fleurs dans son jardin, en tout genre et durant le plus longtemps possible. Alors Jean-Pierre, pouvez-vous lui conseiller, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller comme fleurs et quand commencer les semis ?
Eh bien bonjour Joe. En fait, pour commencer les semis, pour préparer ce carré de plantes à fleurs pour cette année ou pour les années futures, alors on est encore un petit peu tôt évidemment parce que ben on connaît la saison dans laquelle on est. Je dirais mi-mars, fin mars, vous pourrez commencer de préparer un carré dans votre surface, à part un larronnage, un bêchage, un affinement de terre, et puis préparer les mises en place des plantes que vous souhaiterez. Alors il y a quand même un élément important à tenir compte, ce sera de choisir, si vous avez une surface qui est très exposée plein sud, il faudra choisir des plantes, des plantes à fleurs, des vivaces ou des annuelles ou des bisannuelles, des plantes qui supportent plein sud. Et puis si vous serez plein nord, et bien à l'évidence, choisir des plantes qui vont supporter cette situation-là.
Ça c'est écrit sur les petits sachets de graines
qu'on les achète ? Oui, autant sur les étiquettes des plantes que vous achèterez que sur les sachets de semences que vous trouverez, effectivement, oui. Et puis, une fois que vous aurez sélectionné ces plantes, alors il y en a une quantité, hein, autant dans les vivaces, ça veut dire une plante que vous allez planter maintenant et puis que dans 10 ans, vous aurez encore des pieds mères qui vont se développer sur ces plantations de cette situation-ci. Vous aurez des bisannuelles, ça veut dire des plantes que vous voulez mettre en place cette année et puis qui vont fleurir seulement l'année prochaine, puis donner les fleurs et les semences l'année prochaine. Ça, c'est les plantes bisannuelles, mais il y en a des très jolies. Et puis sinon, vous avez toujours des annuelles. Alors, elles sont un peu moins coquettes parce que vous avez les tagettes, les géraniums, les bégonias, ces choses-là. C'est plutôt des plantes à massifs qu'on va mettre sur des massifs qu'on va reprendre au printemps, automne, printemps. Ça donne un peu plus de travail. Si vous avez fait le choix des vivaces, je pense que c'est la meilleure des solutions, parce que celles-là ne donnent pas trop d'entretien. Une fois mises en place, elles vont s'épanouir. Vous aurez une taille automnale pour enlever les vieux éléments à fleurs qui auront donné durant l'année. Un peu de nettoyage de feuilles, peut-être un peu de désherbage durant la saison. Et puis dans les vivaces, vous avez, c'est presque un infini, les coloris, les hauteurs et les diversités de fleurs que vous trouverez. Puis pour une mise en place dans un terrain en mars-avril, eh bien simplement une bonne préparation de terre, une adjonction peut-être de terreau, de compost pour affiner les terres, plantation arrosage, et puis vous allez voir que vous allez pouvoir récolter une quantité de coloris, de senteurs sur ce massif durant cette année.
Mais justement, Jean-Pierre, quand on écoute la question de Joe, qui aimerait beaucoup de fleurs en tout genre, vous parliez d'un petit carré au départ. Est-ce qu'il faudrait pas anticiper peut-être déjà plus grand pour avoir justement plus de fleurs plus rapidement ?
Alors à l'évidence, plus le carré sera grand et plus la diversité sera donnée, parce que il est des vivaces que l'on plante avec un intervalle d'un mètre entre chaque plant, parce que c'est des plantes qui vont vraiment faire un grand bouquet dans le temps, une grande touffe foliaire avec les fleurs. Alors ça dépend un peu toujours de ce qu'il a comme surface à vouloir décorer. C'est vrai que s'il a un petit carré de 2 sur 2, ben, il ne pourra pas mettre 3 pivoines et puis 2 dianthus, parce que ça va être un peu plus compliqué. Dense. S'il a un grand massif, eh bien, il pourra justement choisir des vivaces qui se développent avec une grande densité et puis aussi évidemment une générosité dans la mise à fleurs.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on va enchaîner, on va rester dans les plantes du jardin avec une question de Marion qui a une pivoine herbacée dans son jardin à Thiel, en pleine terre. Elle aimerait la replanter ailleurs, c'est une pivoine qui a déjà quelques années et qui fleurit bien. Comment faire pour la déplacer dans de bonnes conditions et à quelle période de l'année ?
Eh bien c'est une question qui peut répondre aussi à la première, enfin à celle qu'on a répondu précédemment. La pivoine, c'est une plante vivace avec des rhizomes qui fait vraiment une touffe de feuilles de 80 cm à 1 mètre de largeur pour une hauteur de 60 à 70 cm, je pense. Et puis, pour la déplacer, alors, bien sûr, une intervention avec une bêche, il faut aller prendre les rhizomes qui se trouvent dans le sous-sol. C'est comme une plante de dahlia. Je ne sais pas si elle connaît Marion, le dahlia, ou si elle a déjà déplacé une pivoine, mais c'est un rhizome, c'est un pied avec des tubercules. Et puis, à la bêche, vous arrivez à l'arracher. Après, si elle décide aussi de faire deux ou trois plantes de pivoine avec ce pied qu'elle a en ce moment, et bien simplement par division de touffe, ça veut dire qu'elle va casser une partie de ses rhizomes et puis les planter séparément, ça va lui développer de nouveaux pieds de pivoine, ça ne va pas altérer dans la qualité de la fleur, ça va simplement un petit peu la déranger cette année parce que le rhizome il aura perdu un peu de sa force, mais la pivoine est une plante qui est robuste, résistante, qui se remet très vite de ses interventions, donc elle peut intervenir. Et puis au niveau de la période, alors on est en pleine période, je dirais jusqu'à fin mars, il n'y a pas de souci, elle peut intervenir. Au-delà, ça va être un peu plus compliqué parce que la pivoine, elle va quand même commencer de démarrer avril pour avoir ses fleurs dans le courant du mois de mai. Donc, mais là, en ce moment, sans souci.
Merci beaucoup Jean-Pierre, 0 900 1 70 20 20. Il vous reste moins de 10 minutes pour poser vos questions à Jean-Pierre Ribaud, notre spécialiste ce matin dans les jardinières. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question et vous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site internet. Et on enchaîne avec cette question. L'été dernier, nous avons acheté une maison à Vic et il y a dans le jardin un arbre, un poirier, mais qui ne donne aucun fruit. On m'a dit qu'il ne donnait rien car il n'avait pas été taillé depuis longtemps. Pourriez-vous me confirmer cette information et si c'est exact, puis-je le tailler et espérer avoir des poires cette année ? Merci beaucoup.
Oui, alors pour ce qui est des mises à fruits, des arbres fruitiers, la taille peut intervenir pour une mise à fruits, peut favoriser et puis elle peut aussi détruire une mise à fruits. Ça veut dire si vous taillez trop souvent votre fruitier avec un sécateur et puis que vous avez une multiplication de branches annuelles suite à cette taille, là vous n'êtes pas dans le juste au niveau de cette intervention. Maintenant là, concernant ce poirier qui n'a pas été taillé depuis fort longtemps, alors peut-être, ça peut être un problème de taille, j'y crois moins, mais ce qu'il faut faire dans le cas, en tous les cas, c'est d'intervenir avec une scie uniquement, en tout cas pas un sécateur. Il faut dédoubler l'intérieur du végétal, amener de la luminosité et puis voir comment se comporte cette mise à fruit. Il y a des fois des grosses attaques printanières de parasites ou de maladies qui interviennent sur ces bouquets de fleurs et puis ça peut vous détruire facilement la mise à fruit. On a aussi des fois des situations qui sont trop placés froid ou bise ou froid printanier et puis qui vous détruisent ces bouquets de fleurs. En tous les cas, une taille, oui, légère, pas trop méchante, parce que plus on taille, plus on aura une réponse de mise à bois et pas de mise à fruits. Donc il faut être équilibré dans la taille pour ne pas déstabiliser cette situation. Et puis voir comment ça se comporte, avoir un regard durant le printemps sur ces fleurs, si oui, il y a des attaques de parasites, oui, il y a des moldus qui s'y développent. Et puis après, prendre les mesures qui s'imposent au fur et à mesure de l'avancée de la végétation.
Merci Jean-Pierre. Jardinage, tout est question de feeling. L'heure tourne et il va être temps pour les jardinières de s'en aller. Mais avant, place à notre traditionnelle question de fin d'émission. Jean-Pierre, demain, c'est le mois de mars qui commence dans 3 semaines. C'est le printemps. Que faut-il faire au potager ?
Au potager, eh bien, ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être bâcher les surfaces pour éviter les arrivées de mauvaises herbes hâtives, parce que là, les coups de soleil qu'on a réveillent tout de suite ces mauvaises herbes qu'on ne souhaite pas avoir trop durant le printemps. Donc, si on fait une lutte mécanique, on peut appeler ça comme ça, par bâchage avec un plastique noir pour étouffer ces semences en dessous, ce sera d'autant que vous n'aurez pas après. Et puis, si vous avez déjà pratiqué un larronnage, donc une bêche, à l'automne, eh bien, vous pouvez laisser votre potager encore reposer 15 jours, 3 semaines avant les premières préparations. Si le larronnage ou le bêchage n'a pas été réalisé, alors vous pouvez encore bêcher votre potager, y faire une adjonction de compost ou de fumier bien décomposé que vous mettez dans le sillon du labour comme ça, eh bien, vous aurez un élément naturel en engrais pour le démarrage. Et puis, vous avez encore des dernières interventions sur tout ce qui est de plantes aromatiques, les rhubarbes, les ciboulettes et autres, il y a toujours des éléments secs durant l'hiver qui persistent. Alors ça, c'est encore un nettoyage des pieds qu'on peut réaliser. Et puis, ben, attendre les 15-3 semaines qui arrivent pour vraiment commencer de bouger dans le potager, vraiment.
En tout cas, il y a des choses à faire dans le jardin, on l'a compris avec vous Jean-Pierre. Merci beaucoup de votre présence ce matin dans Les Jardinières. On rappelle que vous êtes paysagiste et que votre entreprise se trouve à Queuves, Ribaud Paysages. Belle journée et à tout bientôt chez Les Jardinières, Jean-Pierre.
Merci tout le monde et puis bon week-end à tout le monde.
Merci Jean-Pierre. La semaine prochaine, c'est Tom le jardinier qui répondra à vos questions. Et vous n'attendez pas samedi prochain pour les poser. Vous le faites en tout temps via le formulaire disponible sur nos sites internet ou par SMS, bien sûr. On vous souhaite un bon week-end.
Avec du soleil, si tout va bien.
Oui, normalement, un bon dernier jour de février. On espère que mars sera un petit peu plus clément.
On l'espère aussi. À bientôt Mylène, à la semaine prochaine.
7h, 8h, Les Jardinières.